Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 18 janvier 2025, semaine de folie sur les marchés. Tout va bien à nouveau et les chiffres économiques comme l'inflation rassurent. Et finalement, on se dit que la Fed pourrait quand même peut-être baisser les taux en 2025. C'est pas encore très clair ni très convaincant, mais ça a l'air de suffire largement au marché pour se rassurer au niveau de la macro surtout, et puis ce qui nous a permis de pouvoir nous concentrer sur les chiffres du trimestre. Et là, c'était tout simplement de la folie. Le luxe qui explose avec les chiffres de Richemont qui a carrément entraîné tout le monde, tout le secteur à la hausse, et les bancaires qui cartonnent avant la dérégulation annoncée de la part de Trump qui commencera mardi, sans compter les cryptos qui repartent à la hausse avec la semaine prochaine, puisque tout le monde s'attend à des annonces miracles à Washington, pourvu que ça ne déçoive pas. On fait le point tout de suite sur ce qui s'est passé en Suisse et dans le monde à ma connaissance. Tout d'abord, du côté de l'économie suisse, eh bien, on notera que le climat de consommation s'est un tout petit peu amélioré. L'indice de référence qui a été publié par le SECO s'est inscrit à moins 30 points en décembre 2024. C'est donc mieux que les 14 points de son niveau de décembre 2023. Le secteur du tourisme en Suisse a connu un mois de novembre relativement faste. Les nuitées ont bondi de 5,8% grâce à la hausse des visiteurs suisses et étrangers. Sur 11 mois, l'augmentation est quand même un tout petit peu moindre, moins de 1,9% sur un an, ça reste encore un petit peu en repli. Le point pivot de la semaine aura clairement été, pour le reste, les chiffres de l'inflation américaine qui ont été publiés mardi et mercredi, PPI mardi, CPI mercredi. Comme on en a déjà largement parlé dans le Morning Bull de mercredi matin et de jeudi matin, et je ne vais pas revenir dessus, ça ne servira à rien, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les chiffres restent moins pires que prévu. Souvenez-vous ça, hein, moins pire. Et c'est pour ça que tout le monde a retrouvé des couleurs et la motivation de croire que ça va aller encore, encore et encore plus haut. Ça ne veut pas dire que ça va forcément mieux et que l'inflation a ralenti, ça veut surtout dire qu'elle monte moins fort que prévu. Mais je rappelle tout de même que le but avoué de la Fed, à la base, c'est de ramener l'inflation à 2% et que là tout de suite, très honnêtement, c'est pas tout à fait le chemin que ça prend. Mais c'est pas grave parce que nous étions conditionnés pour avoir une inflation plus forte et se résigner à ne pas voir baisser les taux américains en 2025. Et comme les chiffres de la semaine étaient moins pires, on a été un peu soulagés et on a retourné notre veste pour la troisième ou quatrième ou cinquième fois en 3 mois, je sais plus. Enfin, comme tous les 3 jours en ce moment. Et du coup, comme on a recommencé à rester, les choses sont reparties à la hausse et tout le monde s'est emballé en mode bull market. Donc je conclurai ce chapitre en notant tout de même au passage que le pétrole a tout de même tapé les 80$ cette semaine, même s'il se replie un petit peu en fin de semaine, que le gaz naturel monte à la vitesse d'un cheval au galop et chaque fois qu'un flocon de neige atterrit sur le territoire américain, et que ça, c'est pas forcément encore intégré dans le calcul du mois dernier, sans compter que lorsque l'on connaît les capacités en calcul du Bureau of Labor Statistics, puisque c'est quand même les mêmes qui publient les chiffres de l'emploi, on peut quand même se méfier un tout petit peu. Côté inflation toujours, on peut aussi parler des Européens très brièvement. En Italie, l'inflation a ralenti à 1% en 2024 contre 5,7% en 2023 grâce à la chute des tarifs de l'énergie en particulier, surtout en décembre. Elle s'est établie du coup à 1,3% sur un an. En Allemagne, le renchérissement a été confirmé à 2,6%. On en a déjà parlé cette semaine sur la même période. Et puis en France, le CPI était de 1,8%. On notera aussi au niveau macroéconomique que le PIB du Royaume-Uni, de l'Angleterre, a légèrement augmenté en novembre de, tenez-vous bien, c'est important, 0,1% après avoir baissé la même chose le mois précédent. Donc on sent que ça s'emballe à toute vitesse au UK pour l'instant. Ensuite, il y a eu bien sûr dans la semaine les chiffres des bancaires. Là aussi, on en a largement parlé, mais c'était carton plein pour tout le monde, et sans compter que l'avenir devrait être encore meilleur, encore plus rose pour les banques, puisque dès la semaine prochaine, le président américain sera leur meilleur ami en dérégulant absolument tout ce qui lui passera sous la main. Et puis on terminait la semaine avec les chiffres de Richemont qui ont fait péter le luxe à la hausse, il n'y a pas d'autre terme. Je reviendrai un petit peu sur les chiffres un peu plus loin dans la vidéo, mais disons que c'était excellent et que tout le secteur en a profité. Alors je crois que ce qui fait le plus peur, c'est que Richemont termine la semaine au plus haut de tous les temps. C'est pareil chez Hermès et les Chinois ne se sont même pas encore réveillés. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans le secteur quand China Airlines va affréter des charters entiers pour venir à Paris faire du shopping. Et pour le reste, eh bien, on notera que les marchés US ont vécu leur meilleure semaine depuis les élections, que vendredi, c'était la dernière séance de trading sous Biden et que lundi, les marchés américains seront fermés pour cause de Martin Luther King Day. Le rendement du 10 ans s'est fait taper dessus durant la semaine et est retourné à la niche. Actuellement, on touche plus que du 4,62 par année, alors que mardi, on était à 4,82 et qu'on parlait déjà de 5% à venir. En gros, la semaine aurait été un gigantesque tournage de veste. Dorénavant, la probabilité de voir les taux baisser remonte gentiment. Là, on parle de plus de 30% de probabilité, alors qu'on était avant, on était juste à 20% il y a quelques jours. Et pour le reste, tout reste dans les mains de Trump à partir de mardi. D'ailleurs, à propos de l'investiture, on soulignera que Madame Yellen, secrétaire du Trésor qui sera au chômage dès lundi, a déclaré hier, que les USA atteindront leur plafond maximum au niveau de la dette dès mardi prochain, le 21 janvier, le jour de l'investiture. Et elle a ajouté que le département du Trésor devrait commencer à se bouger les fesses pour trouver des solutions. Donc, Yellen est à la tête du département du Trésor américain depuis 4 ans, et là, elle se casse lundi à la retraite, et elle annonce que son successeur a intérêt à bosser parce que ça va pas du tout. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai quand même un peu l'impression que ça commence à se voir. Oui, ça commence à se voir que les démocrates sont en train de saborder le navire avant de le quitter. Et si ça se trouve, Biden a fait transformer le bureau en val, en triangle, sans rien dire à personne, et il a caché des poissons pourris dans les tiroirs. On passe maintenant aux performances de la semaine. Alors, vous voyez que sur une semaine, eh ben, on a un regain d'intérêt du Bitcoin qui est à plus 8,84% sur la semaine. Pendant plusieurs jours, on s'est dit « Ouh, c'est bon, il est en train de casser les 89 000, on va tous mourir ». Bref, on a tout rebondi, on est quasiment de nouveau presque au plus haut de tous les temps sur le Bitcoin. Le Semiconductor Index qui reprend également 5,4%. Des bonnes nouvelles un peu partout, entre autres avec Taiwan Semiconductor, mais aussi une boîte allemande, j'ai oublié le nom, qui a publié des bons chiffres cette semaine au niveau des semi-conducteurs qui prenaient 17%, qui montre que ça continue à aller relativement bien dans le secteur. Un rebond bien sûr sur le CAC 40 qui reprend 3,75%, merci au secteur du luxe. Le DAX qui est au plus haut de tous les temps avec 3,41% de hausse sur la semaine, c'est impressionnant. Le Dow Jones qui rebondit aussi de 3,7%. Le FTSE en hausse de 3%. Le S&P 500 qui est presque en hausse de 3%. Pas encore vraiment au plus haut tous les temps, mais on verra sur le graphique, on est dans une zone qui commence à devenir de nouveau très intéressante. Le Nasdaq, plus de 45%. La Chine, plus de 2,3%. Le pétrole qui reprend 2%. Et vous voyez que finalement, à la fin, la seule qui se traîne dans le rouge de cette semaine, eh bien, c'est le Nikkei. Les performances de la semaine ont été donc spectaculaires et excessivement positives pour l'ensemble des marchés. Merci aux chiffres de l'inflation. Merci au secteur bancaire. Merci au secteur du luxe. Du côté du marché suisse, si vous prenez la deuxième colonne, donc la dernière colonne à votre droite sur l'écran, eh bien vous voyez le premier chiffre en haut à droite, plus 18,2%, c'est la hausse de Richemont sur la semaine. Ça se passe de commentaires. Non, ils ne font pas de l'intelligence artificielle. Non, ils ne font pas de la crypto-monnaie. Non, ils ne font pas du private equity. Ils font tout simplement des montres et des produits de luxe, donc carton chez Richemont. On leur parlera un petit peu plus loin. C'est du délire. ABB prend quasiment 3%. On a Holcim qui baissotait, qui était downgradé durant la semaine. Autrement, le reste, eh bien, vous voyez Novartis de nouveau un peu dans le pâté. On a de la peine. L'indice SMI s'en sort relativement bien sur la semaine, mais moins que les autres, parce qu'encore une fois, on a des titres qui ne veulent pas bouger. Et c'est pas Richemont qui va suffire à faire exploser le SMI au-dessus des 12 000. Autrement, on a Swiss Re qui a changé son management, qui prend 3,35% sur la semaine. Le bon rush qui est en baisse de 0,67%. Et puis, vous avez alors finalement Nestlé qui est en forte hausse de 0,22%. Alors, c'est clair qu'entre Novartis qui perd près de 2%, Nestlé qui monte de 0,2% et Rush qui baisse de 0,6%, c'est pas comme ça qu'on va avoir des performances stratosphériques sur le SMI. Sika qui prend 3% et l'UBS qui salue ses comparses américains, puisque après les excellents chiffres du secteur bancaire, eh bien, UBS prend 4,53% sur la semaine. Au niveau des graphiques, eh bien, on attaque tout de suite avec le SMI. Alors, même si on n'est pas encore au-dessus des 12 000, on s'en rapproche. Vous voyez que la semaine aura été fructueuse quand même, même si c'est pas l'euphorie sur certains des gros titres. On a le SMI qui est de nouveau de retour juste en dessous, mais juste en dessous des 12 000. Donc, vous voyez qu'ici, il va falloir quand même passer à un moment donné. Déjà, bon, il y a le niveau psychologique, mais vous voyez que c'est un niveau qui reste quand même un niveau pivot assez important sur le SMI. Ce qui est bien, c'est qu'on a cassé la moyenne mobile des 200 jours, qui est cette moyenne verte. Enfin, j'ai un peu changé les couleurs de mes charts ces derniers jours, mais moyenne verte, moyenne mobile des 200 jours qui a été cassée à la hausse, donc c'est positif. La clôture est indubitablement positive sur la semaine. Les choses ont l'air de se passer relativement mieux, j'ai envie de dire, sur la Suisse pour l'instant. C'est pas encore gagné, mais vous voyez que sur la tendance de fond du SMI, qui est quand même un peu à la ramasse depuis un moment, on va tenter bientôt une sortie par le haut. Il faudra qu'on casse clairement les 12 000, j'ai même les 12 100, pour commencer à dire que le SMI est de retour. Affaire à suivre, bien sûr, ces prochains temps en direct sur la chaîne Swissquote en français. Le S&P 500, alors oui, j'ai mis cette petite alignée de chiffres, de petites flèches rouges assez sympa. Vous voyez cette tendance descendante dans laquelle est le S&P 500 depuis un moment, bah, qui passe par là. Bah, vous voyez que vendredi, on a terminé en dessus de cette tendance-là, en dessus de la moyenne mobile des 50 jours. Donc on a pas mal de points à passer. D'abord, les 6 000 également sur le S&P 500, puis ensuite cette résistance, cet ancien top qu'on avait ici pour aller chercher finalement les plus hauts de tous les temps au-dessus des 6 100. Mais ça, il y a Trump qui arrive au pouvoir la semaine prochaine, il y a les résultats qui vont continuer cette semaine, plus les résultats de la semaine d'après avec les gros noms de la tech qui vont arriver. Je vous dis qu'on a toute la capacité possible pour aller chercher beaucoup plus haut, sachant qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a plus de grands chiffres qui devraient faire bouger les choses. Il y a encore le PCE, mais a priori, quand on voit les chiffres qui ont été publiés ces derniers temps aux États-Unis, le PCE devrait être relativement correct. Donc, vous voyez, eh bien, on est en train de casser potentiellement à la hausse sur le S&P 500. En tout cas, on sort à court terme de cette tendance descendante. Le Nasdaq 100, pareil, exactement le même type de configuration. Ils sont également en train de sortir de cette mini tendance descendante, donc plutôt positif. C'est un petit peu plus difficile que sur le S&P 500, un peu plus concentré sur la tech. La tech, on sent que c'est quand même un peu plus dur, même si ça continue, elle est relativement bien pour l'instant. D'ailleurs, on voit sur le SOX qu'il y a eu une belle semaine. On l'a vu sur les performances tout à l'heure. Ce qui est intéressant sur le SOX, comme la semaine dernière, vous voyez qu'on est quand même dans un range, hein, clairement, où c'est difficile de sortir par le haut, comme c'est difficile de sortir par le bas aussi, tant mieux. Vous voyez qu'on est un peu dans cette région. On voit que le SOX, les bas, il est à 4 811 et les tops sont à 5 300, 5 400. Ces prochains temps et ces prochains jours, avec les résultats, ben, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on arrive à casser cette résistance à la hausse pour pouvoir aller chercher bien plus haut sur le SOX et bien plus haut. Ce sera évidemment les plus hauts de tous les temps qui se situent autour des 6 000. Mais pour ça, évidemment, on va avoir besoin de toute la force de frappe du secteur des semi-conducteurs. Le DAX au plus haut de tous les temps. Voilà, tout va bien, c'est génial. L'Allemagne fonctionne parfaitement bien, l'économie allemande fonctionne parfaitement bien, les sociétés allemandes fonctionnent parfaitement bien. Pas toutes, mais en tout cas, celles qui fonctionnent bien fonctionnent très très bien. Donc le DAX frise les 21 000 points. Ça devrait être chose faite la semaine prochaine à la vitesse où ça monte. Il n'y a plus rien à commenter au niveau du graphe, hein, parce que techniquement, bah, on a une tendance haussière qui est clairement affichée. Pour l'instant, on a zéro faiblesse. On a cette résistance aussi dans le canal. Donc là, on va aller chercher les 21 200. Probablement, après, est-ce qu'on va avoir la force d'accélérer encore? Ça reste quand même un indice qui n'est pas de la crypto-monnaie. Donc la logique voudrait qu'on ait plutôt une hausse comme ça, si ça continue à évoluer dans la bonne direction au niveau de l'Allemagne. En tout cas, la confiance est solide. Et les derniers chiffres qui sont sortis au niveau de l'inflation montraient que l'économie semblerait repartir. En tout cas, l'inflation repart, l'économie, c'est une autre chose. Il faudra le voir ces prochains temps. Alors, le CAC 40 a explosé. Alors, je pense que c'est pas parce que le gouvernement de Monsieur Bayrou n'a pas été, s'est pas fait jeter la semaine dernière, puisque finalement, les socialistes ont montré qu'ils avaient à peu près zéro courage et qu'ils étaient juste capables de sucer la roue de n'importe qui, pour autant qu'ils espèrent avoir un petit peu de pouvoir à un certain moment. Donc voilà, grosso modo, le gouvernement reste en place, donc ils vont pouvoir bosser sur un budget. On rigole déjà d'avance pour voir le budget qui sera probablement le même que Monsieur Barnier. Mais là, si tout va bien avec les magouilles qu'ils ont mis en place, ils pourraient continuer à rester en place, parce que finalement, il est quand même sympa ce Monsieur Bayrou. Mais en dehors de ça, bien évidemment, la performance du luxe la semaine dernière a quand même bien aidé le CAC 40 à sortir donc de cette tendance dont je vous parle depuis longtemps. On avait une grosse résistance à la hausse sur les 7 400 ces derniers temps. Vous voyez, c'est par là que ça passait. Et puis bah voilà, on est sorti par le haut. Donc prochain objectif, bah, faut aller chercher les 7008 sur le CAC. Et puis après, bah, on verra. Peut-être après, c'est comme l'Allemagne. Qui sait? On va peut-être se retrouver rapidement au plus haut historique sur la France. Le pétrole, on l'a déjà vu plusieurs fois cette semaine, celui-là. Hein, donc vous voyez que le pétrole a donc cassé cette tendance baissière à long terme. C'est assez marrant parce que personne n'en parle. On est quand même en train de s'établir en dessus. Les chiffres qui sont sortis montrent que l'EIA est plutôt optimiste sur la consommation quand même, que l'offre est relativement contenue et que finalement la production ne devrait pas augmenter tant que ça. Donc l'un dans l'autre, ça dépendra un peu là aussi de ce que Trump pourra nous dire, parce qu'on rappelle quand même pour la petite histoire que Trump, lui, il parle de forer, forer, drill, baby, drill, comme il dit. Donc forer un maximum pour essayer de mettre la pression vendeuse sur le baril pour essayer de le faire revenir à un niveau correct. Je peux vous dire que j'ai fait le plein sur l'autoroute en France l'autre jour. J'ai pas été déçu quand je vois le prix du litre. On n'a pas fini de rigoler au niveau, en tout cas, consommation personnelle de ce côté-là. Enfin, à surveiller quand même, parce qu'effectivement, tout le monde se dit, bah, l'inflation était relativement bien contenue, mais l'inflation se base, les chiffres de l'inflation qui ont été calculés se basent sur cette période-là quand même. Et que là, on est juste un petit peu en dessus. Donc, attention quand même pour les chiffres du mois prochain. Si vraiment le pétrole continuait à partir en dessus des 80 dollars, pour l'instant, ça a l'air de se stabiliser, mais on est quand même en dessus de cette tendance descendante qui a été fortement marquée ces derniers mois. Et là, c'est quand même la première fois où ça casse à la hausse. Le Bitcoin, alors le Bitcoin, c'était quand même assez spectaculaire, hein, puisque l'autre jour, on est allé chercher au plus bas les 89 000, et là, on était au bord de la panique. Et vous voyez que ce candlestick de retournement ici, cette croix-là énorme a vraiment montré que il y avait un imbalance de prix à ce moment-là et que finalement tout s'est retourné. Donc les 90 000 sont vraiment validés comme support hyper fort et depuis ça ne fait que remonter. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que bah, on attend l'investiture de Donald Trump et on attend de voir ce qu'il va nous sortir sur ces fonds stratégiques éventuels que tout le monde attend, non seulement sur le Bitcoin et sur les cryptos en général. On repart sur les vedettes de la semaine. Alors du côté pharma, tout d'abord, l'agence américaine, la FDA, a homologué un test de dépistage de Roche pour le lymphome de type B qui permet de diagnostiquer rapidement ce type de cancer. Et au passage, Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours sur l'action tout en confirmant qu'il reste sur celle. L'analyse de chez Goldman estime que le potentiel haussier reste modeste par rapport à la concurrence dans le secteur pharmaceutique. La cour d'appel pour le circuit fédéral, CAFC, ça s'appelle aux États-Unis, qui est compétent pour les litiges en matière de brevets, a donc confirmé la validité du brevet pour le médicament Entresto de Novartis contre les problèmes cardiaques. Bon, on a vu que ça n'a servi strictement à rien parce que les deux titres ont une performance médiocre cette semaine. Le sous-traitant Lonza. Lonza a été mandaté par le spécialiste suédois de l'inhalation qui s'appelle Inconovo pour développer une formulation nébulisée sèche d'un nouveau traitement expérimental contre l'obésité. Et d'ailleurs, du côté de l'obésité, on notera quand même que Eli Lilly a publié des chiffres tout pourris sur les ventes de ses médicaments anti-obésité, ce qui a entraîné Novo Nordisk dans son sillage. Alors je sais, c'est pas des actions suisses, mais vu que c'était quand même le gros thème de 2024, je signale quand même tout cela au passage. Vous voyez Eli Lilly quand même, depuis les performances de ces derniers temps, le graphique s'est quand même fait bien, bien, bien démonter. Je rappelle quand même que voilà, au septembre-octobre, on était à des niveaux historiques à 960 dollars le titre. Aujourd'hui, on est à 752. La tendance est quand même bien affirmée et les mauvaises nouvelles sur les ventes la semaine dernière ont quand même coûté relativement cher à Eli Lilly. Novo Nordisk, c'est pareil, hein, ils avaient déjà annoncé il y a quelques semaines des mauvaises nouvelles au niveau de leurs médicaments, les leurs, et maintenant on revient aussi sur des niveaux extrêmement bas. Donc voilà, ça reste, je crois, se faire la plus grosse capitalisation européenne, mais néanmoins, on voit que les graphiques, ils ont quand même une sale gueule, une beaucoup plus sale gueule que ce qu'ils avaient ces derniers temps. Si vous regardez tout simplement ces croisements de moyenne mobile 50 et 200 jours, la dernière fois que la moyenne mobile 50 et 200 a croisé sur Novo Nordisk, on était à ces niveaux-là en 2021 et le titre se tâtait autour de 200 couronnes danoises. Aujourd'hui, on est monté jusqu'à des niveaux stratosphériques puisqu'au top, on était à 1000 et on est revenu déjà à 675. Donc attention quand même. Je noterai pour la petite histoire aussi qu'au niveau des médicaments anti-obésité, il y a de plus en plus de rapports, de plus en plus de vidéos qui circulent sur le net, de plus en plus d'effets secondaires qui sont développés et qui sont apparus. Donc attention quand même à l'utilisation de ces produits visiblement. Et si vraiment ça commençait à dégénérer un petit peu trop sur quelques petits problèmes, on va se retrouver dans les mêmes situations qu'on a connu à l'époque pour la cigarette chez Philip Morris. Et puis autrement, Molecular Partners a annoncé étendre son partenariat qui existe déjà avec la société française de biotech qui s'appelle Orano Med dans le développement des radiothérapies DARPin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est des protéines d'anticorps génétiquement modifiées. Il y a également PolyPeptide qui a annoncé un partenariat avec l'américain Cytovance, spécialiste dans les produits biologiques microbiens et mammifères et le développement de procédés. Je veux dire, c'est hyper excitant quand même. Et chez SGS, on parle de fusion avec le concurrent français Bureau Veritas. Mais pour l'instant, rien ne garantit quoi que ce soit, que ces discussions pourraient aboutir à quoi que ce soit non plus. C'est vraiment pas très clair. On espère ni une transaction, ni un arrangement, ni une fusion, mais ils en parlent quand même. Mais à voir la performance du titre cette semaine, on peut déjà en déduire une chose. Les actionnaires suisses sont moyennement emballés par la chose. Le graphique se passe de commentaires. Bon, SGS, ça n'a jamais été un graphique très spectaculaire où il y a des trous partout sur les publications du résultat. Mais alors, regardez l'annonce de la semaine dernière. Vous voyez que le graphique s'est fait littéralement, enfin, que le titre s'est fait littéralement massacrer. Annonce, on est à 93,40. On se retrouve à 4,48 en l'espace de quelques jours. Donc, sur les 3 jours après l'annonce, ça n'a fait que taper dessus. Donc, clairement, le message est clair, hein. J'ai l'impression que les actionnaires de SGS disent non, non, nous on veut pas que vous fusionniez avec un Français, restez comme vous êtes, ça nous va très bien à ce niveau-là, mais si c'est pour aller vous partager avec la France, on est moyennement motivé de venir avec vous. C'est clairement le message que le marché a envoyé la semaine dernière à SGS. Richemont est définitivement et officiellement le titre de la semaine en Suisse. Alors, ils ont déjoué tous les pronostics en annonçant des recettes en nette hausse au troisième trimestre. Le groupe a enregistré une croissance à 2 chiffres dans toutes les régions, sauf le continent asiatique, performance qui, elle explique, de la part de fructueuses ventes qui ont été faites durant les fêtes sur toutes leurs marques de luxe. C'est presque trop facile. Durant le trimestre, les recettes ont augmenté de 10% pour atteindre 6,15 milliards d'euros. Et le groupe qualifie ce résultat comme étant le plus élevé jamais atteint. Les attentes étaient à 5,6 milliards de recettes, bien à côté de la plaque. Et on notera que quasiment tous les analystes ont révisé leurs recommandations et price target à la hausse. En cyclisme, on appelle ça sucer la roue. Alors, vous voyez le graphique de Richemont, c'est du délire, hein. Donc, regardez quand même, on est au plus haut de tous les temps. On est au plus haut de tous les temps sur Richemont. C'est quasiment délirant. On est à 163,75 francs en clôture vendredi. Donc, 18% de hausse sur l'annonce des chiffres trimestriels. C'est juste hallucinant ce qu'ils viennent de nous faire, Richemont. Donc, ils ont pris tout le monde à contre-pied. Donc, regardez-moi ça, c'est incroyable. Le luxe est de retour, visiblement. Et ça, comme je vous le disais avant, cette performance-là, on tient compte du fait que les Chinois ne sont même pas là et ne sont même pas revenus. Alors, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se produire plus tard. Je vous montre également LVMH. Alors, LVMH a encore du chemin à faire, hein. LVMH qui est à 690 euros. Mais vous voyez que le rebond depuis le plus bas est quand même assez spectaculaire. Alors, là aussi, on a cassé du coup la moyenne mobile des 200 jours. On est en train de recasser les résistances qu'on a eu récemment autour des 700 euros. Donc, si on arrive à s'établir au-dessus de 700 euros sur LVMH, qui publiera ses chiffres le 23 janvier, eh bien, on a pas fini de rigoler sur le secteur du luxe. Et puis on a Hermès, pareil que Richemont, regardez-moi ça. Hermès, c'est hallucinant. Donc voilà, 2490 euros l'action chez Hermès. On n'a pas l'impression qu'ils ont vécu une crise à un moment ou à un autre, hein. Il y a eu des moments de faiblesse ces derniers temps, mais vous voyez qu'on est de nouveau au plus haut de tous les temps. Ça rigole. Visiblement, ça ne gêne pas les gens de payer des cravates le prix d'un repas dans un grand restaurant étoilé. Geberit a résisté un peu au vent contraire qui souffle sur le secteur de la construction et de la rénovation l'année dernière. Le spécialiste des toilettes et des installations sanitaires a dégagé un chiffre d'affaires de 3,08 milliards. Un montant qui est stable si on compare avec 2023. La marge opérationnelle devrait, elle, en revanche, se réduire gentiment. Et c'est surtout ce qui n'a pas plu au marché, puisque le titre a perdu 3% sur l'annonce. Vous voyez un graphique qui se passe de commentaires. Petite déception. C'est pas une déception monstrueuse, mais voilà. On n'arrive pas à rebondir. Et Geberit est dans une phase de consolidation, on va dire, latéral depuis quelques temps, qui fait qu'on se demande à quel moment ça va se réveiller. Peut-être qu'avec la reconstruction de l'Ukraine, une fois que Trump aura réglé le problème de la paix là-bas, eh bien, peut-être qu'il y aura du potentiel à rattraper sur Geberit. Au chapitre petit pain et croissant, on retiendra Carista a indiqué être en avance d'une année sur ses objectifs financiers à moyen terme. Le groupe s'attend en tout cas à réaliser de manière prématurée son objectif de marge brute d'au moins 14,5%. Depuis l'annonce, le titre a progressé de 11%. Bon, 11% de pas grand-chose. mais ça reste quand même 11% de hausse pour Arista. Et puis on termine avec Swissquote, les résultats de Swissquote qui ont publié leurs chiffres vendredi. Alors ils tapent sur un bénéfice de 345 millions contre 255 millions l'année d'avant. Fin décembre, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 655 millions et les avoirs des clients étaient à 76 milliards et la net new money atteint 8,3 milliards de francs suisses contre 5 milliards il y a 12 mois. Et c'est aussi assez intéressant puisque dans le communiqué de presse, dans les déclarations du CEO Marc Burki, eh bien, on voit que plus de la moitié du volume de trading en crypto pour la seconde partie de l'année s'est fait uniquement entre novembre et décembre, en gros, ce qui veut dire que l'arrivée de Trump a déclenché un espèce d'engouement magnifique, spectaculaire, on va dire, sur les cryptos. Je vous dis même pas ce que ça va faire quand ils vont annoncer tout ce qu'ils ont annoncé mardi après l'investiture. Pour ce qui est de la semaine prochaine, il n'y aura que peu de chiffres économiques importants, mais en revanche, on n'oubliera pas l'avalanche de résultats qui vont continuer à s'intensifier dans les jours à venir. On aura entre autres 3M, Netflix, Procter, Johnson & Johnson, Texas Instruments ou encore Verizon et American Express. Et puis comme je vous l'ai dit avant, LVMH, le 23 janvier, ça sera très regardé, vous pouvez l'imaginer. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette semaine épique en bourse. La confiance est à son top, pourvu que ça dure. On espère que Trump va marcher sur l'eau. En tous les cas, une chose est sûre, il sait faire son marketing, puisque le président élu vient aujourd'hui de lancer un meme coin à son effigie sur Solana. Regardez ça, il était lancé ce matin, ce meme coin, 22 millions de vues sur la communication sur X, et la valeur de sa crypto perso est déjà de près de 15 milliards, avec une hausse de plus de 4000% en quelques heures, ou 5000%. Bref, on se dit qu'à la vitesse où ça va, il y en a quelques-uns qui viennent déjà de boucler leur année, et potentiellement, il va peut-être trouver un moyen de rembourser la dette américaine avec ça. Voilà, profitez bien de votre week-end. Lundi, il n'y aura pas de Morning Bull pour cause de Martin Luther King Day, mais en revanche, je serai en direct sur le plateau de BFM Business à Paris à 11h dans Tout pour investir avec Lorraine Goumeau. On se revoit donc mardi depuis je ne sais pas où parce que comme vous le voyez, j'ai dû bouger pendant quelques jours à l'étranger pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais je vous revois mardi pour la suite des aventures du monde merveilleux de la finance depuis ici ou depuis ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter, et puis de revenir la semaine prochaine pour voir le Bitcoin passer les 150 000 dollars, le Dogecoin franchir les 1 dollar, et voir Netflix taper les 1 000 dollars après la publication de ses résultats. Excellent week-end, soyez forts, moi je vais trouver un bouchon lyonnais pour pouvoir manger à midi, et je vous vois très bientôt. Allez, bye bye !